Vous êtes à l'écoute de Radio Royan Vercors sur 93 MHz.
Bonjour à tous et à toutes, nous vous donnons les bienvenues dans ces magazines touristiques du mardi 25 juillet 2023. Nous remercions Jean-Claude qui assure la technique pour aujourd'hui et surtout nous remercions Didier Lalande du Musée de la Préhistoire d'être ici avec nous parce que nous vous parlons aujourd'hui du Musée de la Préhistoire et à partir du Musée de la Préhistoire, nous nous sommes rendus avec notre studio mobile. Bonjour.
Bonjour.
On commence cette petite heure qu'on va passer ensemble par l'annonce de tous les partenaires qui rendent possible la réalisation de cette émission. Et donc, nous remercions les musées de l'eau à Pont-à-Royan, le Grand Séchoir, la Maison du Pays de la Noix à Vinay, la Maison-Musée des Rochechouarts, les Mémorials de la Résistance à Vassy-en-Vercors, les Musées de la Préhistoire du Vercors qui est à l'honneur aujourd'hui, et les musées de la Résistance à Vassieux, les jardins des fontaines pétrifiantes à la Saône, la grotte des Thaïs et les bateaux à roues à Saint-Nazaire-Royan, la grotte des Choranges, les festivals textes en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye, les festivals des chapelles en Royan-Vercors, l'office de tourisme Vercors-Drôme, Inzan-Vallée à Beauregard-le-Barré. Merci beaucoup à tous nos partenaires. Et nous allons tout de suite annoncer la feuille de route pour cette petite heure que nous allons passer ensemble. Donc après avoir annoncé nos partenaires, nous allons regarder les activités du jour avec un œil aujourd'hui aussi sur les commémorations parce que c'est vrai que c'est un agenda touristique mais notre territoire c'est aussi un territoire de résistance et nous vous faisons part de certains moments des commémorations qui sont prévus aujourd'hui. Après l'agenda du jour, nous allons avoir un échange avec Didier Lalande qui est responsable du musée de la Préhistoire à Vassieux où nous nous trouvons aujourd'hui. Ensuite, vers 9h30, nous avons une petite respiration des prévus et nous nous rendrons au jardin des fontaines pétrifiantes avec Patrice. Donc ça sera un petit moment de fraîcheur à bord de l'eau. Ensuite, ça sera le moment d'annoncer les programmes pour cette soirée du mardi 25 juillet ainsi que pour les mercredis 26 juillet. Nous aurons un autre moment de change avec Didier Lalande pour poursuivre ensuite sur la troisième tranche de notre agenda qui nous amènera jusqu'à la journée de jeudi 27. Et dans cet agenda, nous allons aussi retrouver des respirations sonores qui vont nous amener au Grand Séchoir à Vinay et puis à Textender qui s'ouvre demain. Et nous terminerons cette matinale avec une deuxième chronique touristique qui nous amènera à la maison mémoire de Rochechouarts. À la fin, nous allons encore appeler tous les partenaires qui nous permettent la réalisation de ce magazine touristique. Et puis nous allons nous dire au revoir et à mercredi. Et nous commençons sans tarder à vous donner quelques suggestions pour les choses à faire aujourd'hui. Et les mardis 25 juillet, comme nous venons de le dire, est aussi une journée consacrée à la mémoire de la Résistance avec deux cérémonies de commémoration des prévues dans les Royans et dans les Vercors. Une cérémonie commémorative anniversaire des fusillés à la chapelle en Vercors. Donc à 9h30, il y aura une messe de souvenirs à l'église. À 10h30, un regroupement devant la mairie avec déplacement et la cérémonie et dépôt des gerbes au monument aux morts ainsi qu'à la cour des fusillés. Et une autre cérémonie est prévue à 10h au mémorial de Saint-Nazaire en Royan. Et on parle encore des résistances parce que plusieurs activités vous sont proposées aujourd'hui pour mieux connaître les lieux de la résistance. Aujourd'hui, comme tous les jours, à ces fins de juillet, l'association Eliréa propose un spectacle et promenade à partir des ponts en Royan. Le titre du spectacle et donc de l'activité des promenades qui va avec sur les traces des maquisards Vercors, plusieurs horaires vous sont proposés. À 11h, 16h, 17h, 18h, vous pouvez donc vous joindre à ces groupes qui feront une promenade et qui assisteront à un spectacle. Les tarifs sont de 27 euros pour un groupe de 4 personnes. Pour des personnes individuelles, les tarifs sont de 25 euros. Pour les adultes, des 22 pour les moins de 18 ans. À travers ces spectacles en plein air, vous pouvez plonger dans l'histoire du premier maquis français. La proposition est de profiter de ce spectacle après une balade qui vous mènera à un point de vue panoramique qui offre une vue imprenable sur les Vercors et sur les lieux des événements. Donc pour plus d'informations et pour réserver, vous pouvez appeler les 06 50 07 80 64. Une deuxième proposition pour aujourd'hui, pour mieux connaître les lieux de la résistance, est une visite hors les murs du village à Vassy-en-Vercors. Les publics, à partir des 12 ans, peuvent participer à une balade pour découvrir l'histoire par les paysages et dévoiler des parcours de résistance. C'est une proposition du musée départemental de la résistance. Le rendez-vous est à 15h30 et les prix sont de 5 euros pour les adultes et de 3,50 € pour les enfants. Et on reste au musée de la Résistance parce qu'aujourd'hui, comme tous les jours, vous pouvez voir les films « Au cœur de l'orage », un film majeur sur les Vercors réalisé par Jean-Paul Leschanois à partir d'images filmées au maquis et des reconstitutions. La projection est à 10h30 au musée départemental de la Résistance et la vision du film est incluse dans les tarifs d'entrée au musée. Et nous continuons à parler des Résistances avec une proposition du mémorial des Vassy-en-Vercors. C'est une conférence sur la reconstruction matérielle et morale du Vercors. Pendant des décennies, l'historiographie s'est beaucoup intéressée aux combats, aux drames et aux destructions. La période de la reconstruction reste un pan relativement méconnu et marque encore notre quotidien à travers nos villages. Saint-Nizier-des-Moucherottes, la Chapelle-en-Vercors, Bassée-en-Vercors. Mais surtout, ce sont les initiatives dédiées aux familles endeuillées et aux enfants du Vercors ayant vécu des scènes traumatisantes qui seront présentées lors de cette conférence. La durée est 1 heure, ça s'adresse à un public à partir de 8 ans, les tarifs sont de 5 euros et c'est sous réservation, donc vous pouvez vous adresser au mémorial de Vassy-en-Vercors. Et nous restons à Vassy-en-Vercors pour parler des 3 ateliers qui vous sont proposés le mardi 25 juillet, comme tous les mardis, au musée de la Préhistoire, où nous nous trouvons aujourd'hui. Les premiers ateliers et ceux de l'apprenti archéologue. Après un passage sur les sites archéologiques de taille des silex, les animateurs vous conduiront à la recherche de vestiges dans un fac-similé des fouilles archéologiques. C'est une activité qui s'adresse à un public à partir des 7 ans et c'est de 10h30 à 12h. Le deuxième atelier du mardi apprend à faire naître le feu. À ces temps-là, comment les hommes sans allumettes ni briquets faisait-il du feu? Durant cet atelier, vous apprendrez à allumer un feu par friction à la manière des préhistoriques. Et c'est à partir des 8 ans. Et puis le troisième atelier proposé demain par le musée de la Préhistoire est l'atelier du petit meunier de la Préhistoire. Comment fabrique-t-on les galettes à la Préhistoire? Monture du blé à l'aide de meules et de molettes, élaboration de la pâte, façonnage des galettes et cuisson au feu au programme de cet atelier. À partir des 4 ans, vous êtes les bienvenus et c'est entre 16h et 17h30. Pour chacun de ces ateliers, les prix sont de 10 euros par adulte et 6 euros par enfant. Et donc, ces ateliers font partie de la programmation de cet été du musée de la Préhistoire de Vassy-en-Vercors, où nous nous trouvons aujourd'hui et où nous avons la chance d'avoir un moment d'échange avec son responsable. Nous vous avons déjà présenté Didier Lalande. Il nous accueille parce qu'on est là au musée de la Préhistoire pour en savoir un peu plus sur ce musée et sur toute la saison d'été 2023 pour lesquelles de nombreuses activités sont proposées. Merci d'être avec nous.
Merci à vous, merci de m'accueillir.
Alors la saison pour les musées a déjà commencé depuis un moment.
Oui, alors donc on est déjà ouvert déjà du mercredi au dimanche pendant depuis début avril. Maintenant pour la pleine saison, je dirais pour juillet août, on est ouvert tous les jours de 10h à 18h non-stop. Et vraiment l'idée du musée de la préhistoire, c'est à la fois d'avoir un parcours permanent qui est bâti sur le monument historique, qui est l'atelier de taille authentique sur lequel a été construit le musée. Et autour duquel il y a un parcours permanent qui décrit les 50 000 ans de préhistoire en Vercors. Et puis autour de ce parcours permanent, nous avons un certain nombre d'activités, et notamment plusieurs ateliers qui sont à la fois pour les jeunes et les adultes, qui sont sur différentes thématiques comme la chasse, faire naître le feu, petit meunier de la préhistoire, apprenti archéologue, j'en passe, et des meilleurs.
Comment on fait les choix qui portent à l'exposition muséographique des 50 000 ans d'histoire, sans perdre les visiteurs et visiteuses?
Alors, sans les perdre, simplement, c'est un parcours permanent qui est extrêmement didactique et qui est facile à appréhender, à la fois pour les enfants comme pour les adultes. Pour les enfants, on a un petit guide de visite aussi, un petit questionnaire qui leur permet de se raccrocher à l'ensemble du parcours de visite. Donc, c'est un ensemble de vitrines qui répartit en fait 6 périodes depuis 50 000 ans, donc depuis le paléolithique moyen jusqu'au néolithique final. Ça veut dire des hommes de Néandertal jusqu'aux derniers hommes préhistoriques du néolithique, des Homo sapiens comme nous-mêmes. Et ce qui explique que, en fait, leurs incursions sur le massif, ce qu'ils sont venus faire en fait sur le territoire du Vercors, vu que le musée est bien vaste en Vercors, et simplement pourquoi ils sont venus tailler du silex ici, simplement parce qu'il y avait un gisement très important de nodules de silex qui leur permettait de tailler des grandes lames dont ils faisaient le commerce après.
Vous l'avez bien dit, c'était des personnes qui venaient sur le Vercors, parce qu'une des caractéristiques de ces sites, c'est qu'ils n'étaient pas habités de manière permanente.
Absolument. Il était habité de manière saisonnière. Et les gens qui venaient tailler ici, surtout à la fin, hein, donc qui venaient sur cet atelier de taille, c'était une des premières fois où en fait des tailleurs taillaient des silex de manière industrieuse et pas simplement pour les besoins du clan, pour en faire derrière échange, troc, commerce, voilà. Et c'était sur des périodes qui dépendaient aussi des différents problèmes climatiques qu'ils pouvaient rencontrer. Mais ils venaient aussi ici pour chasser la marmotte, le bouquetin, enfin voilà, de manière saisonnière, tout à fait.
Et donc des outils de chasse dont on peut voir quelques exemples dans l'exposition?
Oui, alors sur cette histoire depuis 50 000 ans de préhistoire en Vercors, tous les renseignements et tous les objets, les collections qu'on vous présente au musée sont issus de fouilles archéologiques qui ont lieu depuis déjà 45 ans sur le territoire du parc du Vercors, qui ne sont pas que à Vassieux, bien sûr, hein, qui sont sur l'ensemble du Vercors et qui ont permis de mettre à jour des vestiges archéologiques de différentes natures, que ce soit des outils de boucherie, que ce soit des pointes de flèches, enfin voilà, tout ce qui reste en tout cas et qui sont presque essentiellement lithiques, donc qui est de la pierre, puisque tout le reste, tout ce qui était animal ou végétal a bien sûr disparu depuis cette dernière période préhistorique.
Et donc la démarche de la fouille archéologique, elle fait aussi l'objet de votre attention un soir, parce que vous proposez aussi un atelier petit archéologue.
Oui, alors c'est vrai que c'est un atelier qui est assez ludique, parce qu'on a une serre donc avec une grosse couche de sable où en fait on cache des pseudo vestiges archéologiques que les enfants doivent retrouver et déterminer derrière. Donc ça, il y a cet intérêt, mais c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup dans le parcours permanent des différents sites de fouilles qui ont eu lieu et qui ont encore lieu, notamment pour le site de la Grande Rivoire au-dessus de Sassenage, là où il y a encore une fouille très importante qui a lieu actuellement.
Parce qu'il faut le dire aussi, l'archéologie, elle a fait des pas en avant énormes ces dernières années. Et du coup, on peut mettre à jour de manière permanente nos connaissances sur la préhistoire.
Oui, et en plus, on peut faire dire de plus en plus de choses au silex. C'est-à-dire qu'en comparant en fait du silex géologique avec un artefact archéologique, on peut arriver à savoir d'où il vient, où il a été, ce qu'il a fait, enfin voilà, comment il a voyagé en fait ce silex. Et ça permet aussi d'en déduire les déplacements et les modes de vie des hommes préhistoriques de l'époque.
Et il y a de plus en plus d'instruments pour dater les objets.
Tout à fait.
Et Quelle est la place des dates et donc de la chronologie dans la muséographie, dans l'effet de... J'imagine qu'il faut trouver un équilibre entre donner des repères dans les temps et puis ne pas submerger les publics avec des dates.
Alors c'est vrai que les échelles chronologiques, c'est toujours très compliqué à appréhender pour les gens. Je pense qu'il faut simplement, il y a quelques chiffres très clés déjà, enlever de l'imaginaire collectif que l'homme préhistorique a pu rencontrer les dinosaures, par exemple. C'est pas du tout possible, hein. Les dinosaures, c'était il y a 22 millions d'années. Le premier hominidé, on estime, c'est autour de 7 millions. Donc, vous voyez, on risque pas de se croiser. Et puis, pour revenir vraiment à la partie sur le Vercors, on est sur 50 000 ans jusqu'à 4 500 ans. Avant notre ère, donc c'est quand même une période relativement courte sur laquelle il y a eu plusieurs périodes quand même qui ont été décrites, mais je pense pas que ce soit ce qui passionne le plus les gens. Ce qui est vraiment intéressant pour les gens, c'est de se dire que mine de rien, le dernier homme préhistorique du paléolithique final, en fait, était exactement comme nous. C'était la même espèce. Ils étaient génétiquement exactement les mêmes que nous. Et si on les avait habillés à la mode d'aujourd'hui, on n'aurait fait aucune différence. Et se dire que ces gens-là, en fait, vivaient encore il y a simplement 4500 ans. C'est rien.
Donc, à la fois, l'objectif est de donner à la fois l'idée de la profondeur dans les temps de toute cette histoire qui est une histoire longue et en même temps permettre aux personnes de se rendre compte qu'on n'est pas si différent que ça et donc que toute cette très longue histoire nous a pas rendu très différents.
Tout à fait, hein. C'est vrai que l'Homo sapiens, hein, qui est le dernier homme préhistorique, est exactement comme nous. C'est la même espèce, rigoureusement. Et donc c'est intéressant de casser aussi un petit peu toutes ces images qu'ont les gens d'un homme préhistorique avec un peu simiesque. Enfin voilà, c'est absolument pas le cas, quoi. C'était des gens intelligents. On n'arrive pas à être capable de tailler du silex comme eux le faisaient. Ils avaient une énorme expérience et c'était des artisans qui étaient d'un très très haut niveau. Et on se rend compte, pour essayer de les copier un petit peu, qu'en fait c'était vraiment une technique qui a évolué au cours des millénaires et qui était extrêmement avancée.
Et sortir de cette idée d'une différence essentielle entre nous et l'âme de la préhistoire, ça nous permet aussi, ça vous permet aussi de relire la préhistoire avec des lunettes et des préoccupations qui sont celles d'aujourd'hui. Vous avez proposé aussi une conférence où la question des genres était abordée.
Tout à fait. Donc c'est vrai que ce printemps, on a eu une conférence par Julien Treuillot, là, qui est un archéologue et qui a fait une très belle conférence sur la femme, un homme préhistorique comme les autres, point d'interrogation. Donc qui questionne aussi le rôle de la femme dans la société préhistorique, mais aussi tous les problèmes de genre qui sont actuels. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire un parallèle entre la manière dont vivaient ces sociétés-là et puis les problématiques qu'on se pose aujourd'hui, mais en lien avec le réchauffement climatique, avec les déplacements, avec les problèmes de genre, avec les problèmes de la position de la femme dans la société. Enfin, voilà, il y a énormément de parallèles qu'on est capable de faire et qui sont passionnants.
Et nous continuerons à parler de tous ces parallèles dans la deuxième tranche de cette rencontre. On va continuer avec l'agenda et puis on vous retrouve dans quelques minutes, Didier Lalande.
Merci.
Merci à Didier Lalande que nous retrouverons plus tard pour un deuxième moment d'échange. Et merci à tous les partenaires qui nous permettent la réalisation de cette émission. Donc on va les mentionner maintenant. Merci au Musée de l'eau à Pont-Royan, au Grand Séchoir Maison du Pays de la Noix à Vinay, à la Maison Musée des Recherches Inard, au Mémorial de la Résistance à Vassé-en-Vercors, au Musée de la Préhistoire où nous nous trouvons aujourd'hui et au Musée de la Résistance à Vassé, au Jardin des Fontaines Pétrifiantes à la Saône, à la Grotte des Thaïs et au Bateau à Roues à Saint-Nazaire-Royan, la Grotte des Choranches, le Festival Texte en l'air à Saint-Antoine-d'Abbaye, les Festivals de la Chapelle en Royan-Vercors, l'Office du Tourisme Vercors-Drôme, Indians Valley à Beauregard-les-Barrets. Et nous arrivons maintenant au moment de notre chronique touristique qui se passe aujourd'hui à la Saône, au Jardin des Fontaines Pétrifiantes où s'est rendu Patrice. On écoute.
touristique au Jardin des Fontaines pétrifiantes à la Saône. Une visite guidée par Magali, chef jardinière du site.
Alors nous allons cheminer au gré des couleurs et des contrastes du massif, toujours en harmonie. Alors pourquoi la mandragore a un côté aussi énigmatique, pas maléfique, mais un peu mystérieux quand même?
Oui, beaucoup d'histoires sur la mandragore. Là, on la voit dans le massif, elle ne va pas tarder à perdre ses feuilles, mais elles reviendront très vite. La mandragore est une plante méditerranéenne et donc utilisée par les sorcières de France, métropole européenne. Au Moyen-Âge, c'était une plante vraiment très recherchée, difficile à faire pousser. Nous en avons une, on a beaucoup de mal à la conserver, à la faire vieillir. Et surtout, elle est dangereuse pour les jardinières, un petit peu pour les visiteurs. Parce que si jamais on l'arrache, que la racine sort de terre, cette racine, d'un seul coup, va se mettre à gigoter et à crier tellement fort qu'on pourrait s'évanouir. C'est très dangereux.
Oui. Donc vous prenez beaucoup de précautions quand vous manipulez les plantes dans le jardin.
Eh bien, oui. Bon, alors, on peut se dire que ce sont peut-être des histoires de sorcières.
Peut-être un petit peu, quand même.
Elles racontaient ça, les sorcières, pour protéger la mandragore, pour que personne vienne l'arracher dans leur jardin. Parce qu'elles avaient du mal à la faire pousser, comme nous. Et puis, elles se servaient de la racine comme anesthésiant. Donc, c'était vraiment important pour ces femmes qui étaient là pour soigner, de pouvoir anesthésier une bouche pour arracher une dent, soigner, sans faire mal, sans que le malade gigote. Elles arrivaient à anesthésier un bras, une jambe. Elle pouvait même complètement endormir une personne. Avec une potion de mandragore, elle arrivait à, comme aujourd'hui au bloc, une anesthésie générale. Et elle ressuscitait les gens. Ça leur valait le bûcher. Mais du coup, cette plante leur permettait de soigner sans faire souffrir et correctement les gens pour amputer, par exemple, pour arracher une dent, c'était très important. Du coup, elle racontait des histoires qui faisaient très peur, pour conserver dans leur jardin la racine de la mandragore. On arrive sur une petite place devant une fontaine pétrifiante et on a autour de nous des tourets qu'on utilise comme présentoirs, dessus des pots de toutes sortes avec des plantes qu'on avait envie de présenter aux gens, des plantes un peu particulières, comme les eucomides qui vont fleurir en forme d'ananas, c'est très rigolo. Et pour les protéger en ce moment, comme il fait très chaud, eh bien on leur a installé des parasols pour pouvoir les protéger du soleil brûlant.
À suivre cette chronique touristique au Jardin des Fontaines pétrifiantes à la Saône, en compagnie de Magali, chef jardinière du site.
Merci à Patrice et merci au Jardin des Fontaines pétrifiantes qui fait partie de nos partenaires. Et nous continuons dans cette deuxième tranche d'agenda à parler de nos partenaires parce que les festivals des chapelles Royan-Vercors vous proposent pour ce soir à Saint-Agnan en Vercors un spectacle qui porte le nom de Le Doux Siècle invite Noémie Westfeld, Michel Seigle, violon, Nicolas Seigle, violoncelle, Noémie Westfeld, chanteuse, pour des musiques de Martinus, Defala, Ravel, Gershwin, Schulhoff. Le rendez-vous est à l'église de Saint-Agnan-en-Vercors à 20h30 et les tarifs sont compris entre 8 et 13 euros. Et nous restons sur les plateaux, mais nous allons à Vassé-en-Vercors parce que mardi soir, la librairie Les Espelines, donc ce soir, vous pouvez assister au spectacle au titre Humain de demain. Solo mêlant contre, théâtre et musique où se succèdent des personnages hauts en couleur qui funambulent sur les fils verts de l'humanité. C'est une création de 2023 de la compagnie Be Alive. Le spectacle est à prix libre, mais la participation conseillée était 8 euros. Le rendez-vous est à 20h30, donc à la librairie Les Espelines à Vassé-en-Vercors. Et toujours à la librairie Les Espelines de Vassé-en-Vercors, demain, mercredi 26 juillet, vous pouvez participer à un après-midi jeu à partir de 14h. Que vous préférez les jeux de société classique ou que vous ayez envie de découvrir de nouveaux jeux, voici l'occasion de passer un moment convivial et c'est une activité gratuite. Et nous restons à Vasseux pour parler de jeux, parce que tous les mercredis à cette période, vous pouvez participer à un escape game. Cela s'adresse à un public à partir des 8 ans. C'est une mission spéciale avec un parcours chronométré, des épreuves du codage jusqu'au coffre mystère. C'est une proposition du musée départemental de la résistance du Vercors et les rendez-vous est à 15h30. Les prix est à partir de 3,50€. Et on continue à parler d'escape game, mais nous nous rendons cette fois dans le sud Grésivaudan avec une proposition du Grand Séchoir à Vinay. L'escape game s'appelle, les titres, La légende des noix d'or. Conçu par les lapins blancs, ce jeu vous plonge dans l'univers de la sorcellerie par une redécouverte ludique du Grand Séchoir. D'énigme en énigme, grâce au carnet de la célèbre sorcière Cornelia Platicaria, vous pouvez reconstituer le parcours qui mène aux mystérieuses noix d'or. Cela s'adresse à un public à partir de 12 ans. Les tarifs pour les adultes, c'est de 7,50€ et pour les enfants, de 6,50€. Mais cet escape game n'est pas la seule activité à laquelle vous pouvez participer demain au Grand Séchoir des Vinay, parce qu'à 10h, vous avez rendez-vous avec Plume des Brigands. Donc c'est demain, 26 juillet, à 10h, avec Plume des Brigands. Et la présentation de cette activité nous est faite par Nelly Pau, chargée des développements publics au Grand Séchoir. On écoute.
Des rendez-vous réguliers pour cet été, et je pense notamment aux lectures avec Plume de Brigand, qu'on peut retrouver déjà depuis de nombreuses années ici au Grand Séchoir.
Tout à fait. Et elles aussi, elles ont joué le jeu des insectes, puisqu'elles ont choisi des histoires qui vont parler de coccinelles, d'abeilles, de petites bêtes. Voilà, et donc elles les ont appelées des histoires qui piquent, qui grattent et qui chatouillent.
Donc ce sont des rendez-vous à retrouver également tout l'été, puisqu'il y a 6 rendez-vous, si je ne me trompe pas, 6 dates, des mercredis uniquement.
Exactement, oui. Les mercredis matin.
Ce sont des ateliers qui sont principalement destinés donc aux enfants, pour un tarif de 5€, et le goûter est inclus également dans ces ateliers.
Oui, on est un lieu un peu gourmand, j'avoue.
Je détaille les dates donc pour nos auditeurs. Nous avons le mercredi 26 juillet, le 2 août, le 9 août, le 16 août et le 23 août, donc à chaque fois à 10h pour donc ces rendez-vous qui durent combien de temps, Nelly ?
Une heure à peu près.
Merci à Nelly Pau, chargée des développements des publics au Grand Séchoir. Et ce sont donc les insectes qui sont au centre de ce rendez-vous avec Plume des Brigands à Vinay. Et nous nous quittons Vinay, mais nous ne quittons pas les insectes qui sont la spécialité de Jérôme Casas, professeur à l'Université des Tours et qui est conseiller scientifique pour l'exposition « Biodiversité vitale et fragile ». Il s'agit d'une exposition temporaire que vous pouvez voir au Musée de la Préhistoire, donc ici où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est une exposition en extérieur que vous pouvez voir tous les jours au musée. La grande diversité des espèces vivantes est source d'aliments, des médicaments, des connaissances. Elle permet le maintien des grands équilibres écologiques. Sous la pression des activités humaines, des espèces vivantes disparaissent à un rythme accéléré. Étudier et protéger la biodiversité deviennent une question de survie, et c'est ce que cette expo veut apporter aux visiteurs et aux visiteuses du musée de la Préhistoire. Visiteuses et visiteuses du musée de la Préhistoire, où nous nous trouvons aujourd'hui pour la réalisation de cette émission. Et nous retrouvons Didier Lalonde, chargé de développement au musée de la Préhistoire, qui nous accueille aujourd'hui avec notre studio mobile au musée. Et nous avons commencé à parler de tous les parallèles qu'on peut faire entre aujourd'hui et la Préhistoire. Et vous avez évoqué aussi les changements climatiques comme thème qui nous permet de relire et de relier la Préhistoire à notre temps présent. Et c'est les thèmes aussi de l'exposition temporaire autour de la biodiversité.
Alors là, c'est vrai que cette année, on accueille une nouvelle exposition temporaire qui est en extérieur sur neuf sites différents et qui parle en fait de la biodiversité vitale et fragile. C'est toute l'importance qu'a la biodiversité pour l'être humain et pour vivre ensemble de manière cohérente sur cette planète.
Elle se déroule comment ?
Donc en fait, on a dispersé à l'extérieur du musée des gabions qui sont remplis en fait des déchets de taille de silex, hein, puisque au musée, toute personne qui vient visiter le musée peut voir une démonstration de taille de silex. Donc tout ça génère des déchets de taille, et pour pas qu'on les mélange avec des potentiels vestiges archéologiques, donc on met tous ces déchets de taille dans des gabions, hein, dans des, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, des grands carrés en gris ferraillés en grillage, et sur le dessus de ces gabions, donc on a 9 panneaux qui expliquent l'importance de la biodiversité sur la planète.
Et donc une biodiversité des plantes, et pas que des plantes, parce qu'on découvre par exemple dans l'atelier où on apprend à allumer des feux que les champignons avaient une énorme importance.
Oui, oui. Alors là, vous allez avoir bien sûr, il y a pas. C'est dans la biodiversité, il y a le végétal et bien sûr il y a l'animal. Voilà, on vous explique en gros tout ce que peut apporter cette biodiversité à l'être humain et à l'humanité en général.
Donc ça, c'est une exposition temporaire qu'on peut voir jusqu'à quand ?
On va la garder. On l'appelle ça temporaire, mais on va la garder quand même, je pense, 2 ans.
Voilà. Pour cet été. Est-ce que vous voulez nous présenter un peu toutes les activités ?
Alors oui, donc le musée est donc ouvert tous les jours là pendant juillet-août de 10h à 18h. On a tous les week-ends à 14h30 une visite guidée aussi où il faut s'inscrire. Par contre, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet du musée là www.prehistoire-vercors.fr. www.prehistoire-vercors.fr, où là vous trouverez absolument tous les détails. Mais pour les visites guidées, il faut s'inscrire. Il faut pour les, on a aussi bien sûr ces démonstrations de taille que j'ai déjà évoquées. Donc on en a 3 par jour, 11h30, 14h30 et 16h30. On peut en rajouter s'il y a une grosse demande. Et donc normalement on arrive à couvrir à peu près tous les visiteurs qui visitent librement le musée, mais qui veulent avoir cette démonstration de taille, hein, qui a un gros succès, hein, ça intéresse beaucoup beaucoup les gens. Bien sûr, on a parlé des différents ateliers. Donc ces ateliers, ils sont le mardi et le vendredi. Et donc il y a un atelier le matin et 2 ateliers l'après-midi. Et là, c'est sur réservation. Et là, pour le coup, il faut appeler au musée pour s'inscrire, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu des détails. Il y a certains ateliers qu'on peut pas faire avant 8 ans. Enfin, voilà. Donc, il y a quelques détails à savoir. Et puis, en fonction aussi de la météo et du nombre d'inscrits. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à appeler pour ça, pour avoir des renseignements et vous inscrire. Et puis, on a déjà parlé aussi, bien sûr, de notre exposition temporaire. Nous avons aussi, en plein été, là, une soirée spectacle avec un atelier petit brûloir en début de soirée, et puis après une soirée spectacle qui est en partenariat avec la compagnie La Malle aux Libertés, qui est aussi sur Vassy-en-Vercors. Donc ce spectacle s'appellera Le Premier Cinéma de l'Humanité, et il sera en fait joué par des jeunes européens qui sont en séjour sur Vassieux à cette période-là.
À quel public ça s'adresse ?
À tout le monde, les familles, bien sûr. Tout le monde, les familles. Voilà, tout le monde est le bienvenu. Ce sera en extérieur, donc il faudra prendre un petit pull. Quand même, s'il fait un peu frais, ça arrive quand même à Vassieux.
Et puis, en fin des saisons, les 17 septembre, vous avez un autre événement.
Ah oui, donc là, c'est vrai qu'on a 3 événements principaux annuels au Musée de la Préhistoire. Donc, on a les championnats de tir à l'arme préhistorique qui est en avril. On a les journées européennes de l'archéologie, donc en juin. Et puis, les journées européennes du patrimoine, donc là, qui seront le 16 et le 17 septembre prochain, où on accueillera à la fois un conteur qui va raconter des histoires autour de la préhistoire, mais aussi un concert qui animera des sets musicaux tout au long de la journée, et puis bien sûr les visites libres, les visites guidées, et puis une petite surprise pour les enfants. On appelle ça la chasse au biface, la biface étant un silex taillé, ça ressemble, on va dire, comme 2 gouttes d'eau à une chasse aux œufs, mais où l'idée est de retrouver dans le parc du musée des bifaces taillées.
Et cette activité confirme elle est complètement en cohérence avec toute l'attention qu'en tant que musée vous donnez au jeune public.
Absolument. C'est vrai que nous, la grosse majorité de nos visiteurs, ce sont à la fois des scolaires, pour quand le hors vacances scolaires, bien sûr, mais aussi des groupes de jeunes qui sont en centre de vacances et de loisirs sur le territoire du Vercors. Et puis, bien sûr, ce qu'on appelle, nous, les tribus, c'est-à-dire des grandes familles. Souvent, c'est soit intergénérationnel, soit des groupes d'amis, mais c'est souvent des groupes de 8, 10, 12 personnes qui viennent ensemble passer un moment au musée, profiter aussi des tables de pique-nique et de la forêt autour qui est absolument magnifique, et puis des ateliers, de la visite libre, des visites guidées, des démonstrations de taille.
Et si le musée de la préhistoire vous propose de plonger dans les temps de la préhistoire, d'autres plongées dans l'histoire sont possibles grâce à d'autres propositions sur notre territoire. En particulier, une plongée dans le Moyen-Âge vous est proposée dans le cadre des visites théâtralisées, la médecine médiévale, Saint-Antoine te guérira s'il le veut. C'est le titre de cette visite théâtralisée qui vous est proposée à Saint-Antoine de l'Abbaye. Pour les adultes, les tarifs c'est de 10 euros à 11 euros. Les tarifs réduits c'est de 7 à 8 euros. Le rendez-vous est pour demain, mercredi à 10h30 à Saint-Antoine de l'Abbaye. Et pour plus d'informations, vous pouvez appeler les 04 76 3 85 3 85. Et nous restons à Saint-Antoine de l'Abbaye pour le festival Texte en l'air, un festival autour des mots. Dans ce festival, théâtre, lecture, pérégrination poétique, concert en plein air, art plastique, conférences, apéro rencontres, atelier d'écriture, un festival des mots bousculés, lus, chantés, entrechoqués, mis en espace entre hauts murs, cours et jardins. Et aujourd'hui, notre focus est sur les projets théâtrales des Envolées pour accompagner la jeune création théâtrale en Auvergne-Rhône-Alpes. Trois représentations théâtrales auront lieu dans le cadre du festival Texte en l'air à Saint-Antoine de l'Abbaye du 26 au 30 juillet. Présentation du projet par Valérie Charpinet, directrice artistique des Textes en l'air. On écoute.
Les Envolées, c'est une biennale donc, à laquelle on participe. Nous sommes 9 partenaires, théâtre de l'agglomération grenobloise, le TMG, des théâtres lyonnais également. Et en fait, nous accompagnons 3 projets de toutes jeunes compagnies. Donc du départ, c'est-à-dire que nous sélectionnons les projets sur dossier. Ils doivent avoir un texte contemporain, ça c'est un de leurs objectifs, enfin c'est une nécessité pour participer à ces envolées. Et ensuite nous les accompagnons de point de vue scénographique, dramaturgique. Ensuite ils sont en résidence et ils jouent, donc ils font une tournée, ils jouent à Grenoble, à Texte en l'air et ensuite à la rentrée à l'automne dans les théâtres lyonnais. Donc il y a 3 équipes. La première équipe commence par un spectacle qui avait un joli titre pour un festival estival puisqu'il s'appelle « Vacances ». Et qu'il s'agit d'une petite variation sur ce mot avec l'histoire d'une personne qui part en vacances alors qu'elle ne l'a pas fait depuis 15 ans. Et qu'est-ce que veut dire ce mot-là et comment on s'en empare avec les images qu'on peut avoir dans la tête de l'hôtel idéal, de la vue sur la mer, etc. Et comment la réalité ou le fantasme rattrape ça, cette histoire-là. La deuxième proposition, c'est un texte de Jules Benveniste qui est également le co-metteur en scène et l'acteur de ce spectacle. Ce spectacle s'appelle « Pleure pas papa ». Jules Benveniste a une double appartenance, il est franco-italien et il va nous raconter l'histoire d'un homme qui a fait la traversée des Alpes pour rejoindre la France sans doute, et cette histoire mélange un peu toutes les histoires de migration que nous connaissons entre l'Italie et la France, que nous avons connues à plusieurs moments et qu'on connaît bien dans le Royaume puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés par ces migrations-là. Et donc cet acteur nous raconte son histoire en mêlant la langue française et la langue italienne, ce qui n'est absolument pas un problème. Moi, j'ai vu le spectacle, je ne parle pas un mot d'italien, mais ça nous amène vers cette autre sonorité. Donc, on voyage avec ces deux langues. Et il passe donc de ces moments d'enfance à jouer au foot dans les cours d'immeubles à cette traversée et à ce récit de cette traversée. Et il est accompagné dans cette traversée par une musicienne saxophoniste qui est sur le plateau et qui l'accompagne aussi pour dans ce récit.
Pleure pas papa, donc une proposition qui se déroule le vendredi 28 juillet à 17h. Et qui donc met à l'honneur une toute jeune compagnie qui propose ce premier spectacle. Et on a une dernière proposition dans le cadre des Envolées.
La dernière proposition s'appelle « La véritable histoire de la Gorgone Méduse ». C'est un texte de Béatrice Bienville qui s'est emparée de l'histoire de la Gorgone Méduse, en fait qui est l'histoire d'une jeune femme qui porte, nous connaissons la Gorgone Méduse par son visage monstrueux, qui porte ses serpents sur sa tête et qui pétrifie toute personne qui la regarde dans les yeux. Mais le démarrage de cette histoire-là, c'est en fait une histoire de viol. Si elle porte ce visage monstrueux, c'est qu'elle porte l'infamie de ce qu'elle a subi de la part d'un dieu. Donc évidemment, une jeune autrice aujourd'hui s'empare d'un mythe comme ça pour le retourner et pour dénoncer effectivement ces histoires de viol, surtout liées à l'histoire de pouvoir, puisque en fait, là on se retrouverait plus du côté du show business, de la politique et d'une jeune fille un peu fascinée par ça et qui va se retrouver donc subir cette agression de la part d'un homme qui a du pouvoir.
Classicisme et modernité. Alors, pour cette dernière proposition, la véritable histoire de la Gorgone Méduse, dans le cadre du projet Les Envolées, donc à 17h le samedi 29 juillet.
Merci à Valérie Charpinet. Et nous rappelons que l'ouverture du festival est prévue pour demain avec un concert de La Meute à 19h30 dans la Grand Cour. C'est un concert gratuit et La Meute est un groupe de spoken word. Et nous nous donnons encore un rendez-vous musique pour demain soir, mais cette fois le rendez-vous est dans le Royan, et plus précisément à Saint-Jean-en-Royan. La musique à l'honneur des mercredis sur place cette semaine est la musique brésilienne du groupe Bakida, qui jouera à 21h. En plus de cela, Lucia de Saint-Jean-en-Royan en profite pour vous proposer de vous mettre dans l'ambiance de la soirée en mangeant. Dès 19h, vous pouvez déguster une feijoada, une recette traditionnelle de la cuisine brésilienne. La feijoada est un plat réalisé à base de haricots noirs et des viandes de porc. Les bénéfices de la soirée permettront à Lucia d'organiser les Noëls des enfants sur la place de la mairie en décembre. Et un autre rendez-vous vous est donné à Saint-Jean-en-Royan, mais pour jeudi matin, et c'est un rendez-vous avec un éco-garde. Conseil randonnée, nature, réglementation, lecture des cartes avec un éco-garde du parc du Vercors. Rendez-vous tous les jeudis de 9h à 11h30 sur les marchés des Saint-Jean-en-Royan. Et si avec l'éco-garde du parc naturel régional du Vercors vous parlera des randonnées et des sentiers entre autres choses, il est sur les sentiers de l'imaginaire qui vous convie la librairie des Zespelines avec un rendez-vous Conte de la forêt, et c'est pour les jeudis 27 juillet de 18h à 19h à Vassé-en-Vercors. Cela s'adresse en public à partir de 3 ans et la participation est au chapeau. Et nous restons à Vassieux pour les derniers rendez-vous de cet agenda. Il s'agit d'un spectacle qui aura lieu au musée de la Préhistoire. Le titre du spectacle est « Le premier cinéma de l'humanité », une fiction marionnettique avec en tête d'affiche Tom Croc et Grete Pip. Ce spectacle sera le résultat d'un atelier théâtre donné par la Compagnie de la Malle aux Libertés avec les jeunes d'un chantier international et programmé dans le cadre du Festival de la Marionnette Rendez-vous Andoline. La durée du spectacle est d'environ 1 heure. Ça s'adresse à tout public et la participation est libre au chapeau. Et ces derniers rendez-vous de notre agenda nous permettent de revenir dans le Ici et Maintenant au Musée de la Préhistoire en Vercors. Parce que nous nous trouvons au musée aujourd'hui et nous avons l'occasion de rencontrer plusieurs des personnes qui ouvrent au fonctionnement de cette structure. Nous avons discuté avec Didier Lalonde tout à l'heure et là nous rencontrons Diane. Et Diane qui est animatrice ici au musée, merci Diane.
Merci à vous.
On est très très contente et contente de vous parler parce que vous pouvez nous amener un peu l'espérance concrète de l'animation d'ateliers qui est un peu au centre des activités proposées.
Oui, tout à fait. Moi, je suis saisonnière ici et donc je suis animatrice et je m'occupe également de l'accueil des publics. Et donc, c'est vraiment une expérience qui est très intéressante, très enrichissante. On reçoit beaucoup de scolaires, notamment. On leur propose différents ateliers. C'est quelque chose vraiment qui plaît beaucoup. Je dirais que c'est vraiment concret parce qu'ils peuvent vraiment s'immerger au temps de la préhistoire en touchant différentes matières, des peaux d'animaux, par exemple. Pour les plus petits, ça plaît beaucoup parce qu'ils ont vraiment besoin de solliciter leur sens. Donc voilà, le fait de pouvoir toucher des différentes matières, de pouvoir faire leur petit collier préhistorique par exemple, ou faire leur galette préhistorique, c'est vraiment quelque chose qui plaît, qui les anime. Et puis on fait également des démonstrations de taille de silex pour tous les visiteurs, hein, que ce soit les individuels ou les groupes. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aussi. C'est, encore une fois, c'est très concret. Les visiteurs voient les gestes, ils voient les différents outils utilisés. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant, autant pour les personnes qui travaillent ici que pour les visiteurs, je pense.
Et pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore fait cette expérience dès l'atelier, est-ce que vous voulez nous expliquer le déroulement d'un atelier dans des ateliers que vous proposez?
Oui. Alors, les ateliers, donc tous les ateliers durent 1h30. À chaque fois, on commence par faire un préambule sur la préhistoire en général. Donc, on parle des différentes périodes de la préhistoire, voir un peu les connaissances qu'ont les enfants. Nous, on leur apporte évidemment d'autres connaissances. Donc, toujours un petit préambule sur la préhistoire en général, la préhistoire en Vercors également. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'échanges, hein, pendant ce préambule. Évidemment, on pose des questions, les enfants interagissent vraiment, et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis après, c'est eux qui sont à l'œuvre, hein, donc pendant environ 1 heure, ils vont pratiquer. Donc, je peux prendre un exemple, par exemple, pendant l'atelier fouille archéologique, là, donc on a une serre, on a reconstitué vraiment une fouille, et donc les enfants vont creuser, vont trouver différents vestiges, différents objets, faut qu'ils identifient ces objets-là, voilà, c'est un atelier qui est assez polyvalent, parce qu'ils cherchent, après faut qu'ils identifient les objets, après on en reparle, nous, ensuite, dans la salle, donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup.
Et ça leur apporte en même temps des connaissances et les plaisirs de la découverte en général?
Oui, tout à fait, c'est ça.
Et quelle est la question la plus surprenante qui vous est arrivée d'avoir un atelier?
Alors là, comme ça, question la plus surprenante, alors, un peu difficile à dire. Après, ce qui est assez drôle et ce qu'on retrouve assez souvent, c'est quand on pose la question aux enfants, qu'est-ce que c'est la préhistoire, essaie de me donner une définition de la préhistoire. Très souvent, à la préhistoire, il n'y avait pas de voiture, ou à la préhistoire, on n'avait pas de téléphone. C'est quelque chose d'évident, mais c'est quelque chose qui ressort beaucoup, et en général, c'est assez drôle, ça fait sourire quand même.
Donc c'est tout un rapport à la technologie qui
oui.
ressort.
Bah, c'est vrai que peut-être quand ils ressortent du musée, ils voient les choses un peu autrement, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est tout ce qui est technologie moderne, les téléphones, les voitures. Et en fait, déjà à l'époque, il y avait déjà une technologie, entre guillemets, hein, de vraies techniques qu'on sait à peine des fois reproduire aujourd'hui, tellement c'est des gestes qui sont extrêmement techniques. Donc voilà.
Et est-ce que c'est difficile d'adapter le contenu des ateliers à un public d'âge parfois très différent? Il y a des adultes, il peut y avoir des enfants de 4 ans.
Alors, on essaie toujours, évidemment, de s'adapter, hein. On essaie d'adapter le discours quand on a en effet des publics qui sont mélangés pendant une démonstration de taille de silex, des enfants en très bas âge, puis d'autres personnes adultes qui ont déjà des connaissances plus poussées. C'est faut s'adapter, mais en général ça marche parce que il y a les gestes, et là les gestes intéressent autant les enfants que les adultes, donc on arrive plutôt à capter tous les publics.
Merci.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous, Diane.
Merci.
et toutes les activités qui sont proposées par les musées de la préhistoire nous poussent à nous intéresser au passé. Et on reste sur la thématique de l'intérêt vers le passé, mais tout un autre passé, un passé plus proche de nous, qui est évoqué par la maison musée des Rochechouart, qui fait l'objet de notre deuxième chronique touristique aujourd'hui. On écoute.
Chronique touristique à la maison musée du Royan à Rochechouart. Découverte de l'exposition permanente avec Alain Derbier.
Ensuite, tout près de la porte, on trouvait un pôle féminin par contre, plus près de la porte. C'était là que la mère arrivait, la maîtresse de maison, avec ses seaux de lait, avec ses légumes, avec tout ce qu'elle avait à faire. C'est là qu'elle travaillait ses fromages. Bon, autrefois, donc avant 1870, du fromage de chèvre uniquement. Et après, lorsqu'il y a eu la circulation avec le Vercors, bien sûr, un mélange de lait de chèvre et de lait de vache pour faire le Saint-Marcellin, hein, qui était vendu sur le marché ensuite. Dans l'angle face à la porte, nous sommes entrés il y a 5 minutes, normalement, on devrait trouver un lit. Il n'y est pas, bien sûr, parce que c'est trop petit. C'est le lit du maître de maison et de sa femme, face à la porte d'entrée. Parce qu'il faut qu'en cas d'incendie de la maison, on puisse vite sortir pour aller alerter, chercher de l'eau. Mais aussi, si c'est le voisin qui a des ennuis, qu'on puisse, durant la nuit, sortir. Et puis, il y a aussi, j'ai des tas de belles histoires à ce sujet, tout ce qu'on appelait les errants, les gens qui cherchaient du travail, les vagabonds, on dirait aujourd'hui. On leur devait, comme vous le savez, assistance. Hein. Donc, sous ces porches, ils pouvaient arriver. Et donc frapper, la nuit, on se devait de leur servir un peu d'eau ou quelque chose, et ils dormaient en général sous ce porche-là. Voilà, donc ce lit, c'est là que va vivre le ménage qui s'installe, et c'est là aussi que l'on va venir mourir. Après avoir passé par la pièce qui se trouve derrière, où on va aller dans quelques instants, ça c'est la pièce des gens en action. Les gens... soit ne pouvant pas travailler parce qu'ils sont trop jeunes, soit ne pouvant plus trop travailler étant fragiles, sont dans cette deuxième pièce qui, bon, c'est pas le cas dans cette maison, est normalement au dos de la plaque de cheminée. De façon, c'est un coin chaud, comme propre, sain, ainsi de suite. C'est là que vont vivre ces personnes âgées. Là, la grande porte d'entrée, elle est toujours ouverte, puis ça permet de la cheminée de tirer parce que la cheminée, elle fume. Voilà. On va passer dans la pièce d'à côté. Alors, déjà, l'odeur est différente. Ça sent plus frais. Et c'est un lieu féminin aussi. C'est-à-dire que la plaque de cheminée est là. Elle n'y est pas dans notre cas. Elle va chauffer. Nous sommes ici sur plancher aussi. On va chauffer. Qui vit ici? Les mannequins qui représentent sont là pour nous le dire. Les grands-mères. Les grands-mères, c'est un lieu féminin. Un homme doit très peu rentrer ici. C'est ici qu'est conservé le linge, c'est ici que sont conservés dans ces armoires là que nous avons deux belles, eh bien ces armoires, le linge, les papiers de famille, l'argent, les quelques choses importantes que l'on peut avoir, on ne peut pas parler de bijoux, mais des choses un peu importantes, et surtout les papiers de famille, les documents qui dorment dans le linge, et puis aussi la médication, puisque c'est la pièce la plus saine, et donc il y a une représentation ici de cette médication, avec les préparations, soit campagnardes, hein. Je vous ai parlé des châtaignes, on mange beaucoup des châtaignes, mais châtaignes, il y a un ennui, hein. On ne va pas à la selle autant qu'on voudrait. C'est pour ça qu'ils sont présentés dans ces magnifiques clistères qui étaient utilisés, étant donné la consommation importante de châtaignes. Mais on trouve aussi, bien sûr, l'éternelle fleur d'oranger, des pots avec des queues de cerises, de la camomille ou d'autres plantes, éventuellement la fameuse rue. La plante avortive ou un spermicide. On peut trouver aussi des préparations de pharmaciens, hein, avec l'explication du produit a été suivant ce que le médecin avait demandé, des produits donc préparés. Voilà ces dames qui sont ici, elles gèrent ce lieu, elles s'occupent aussi, donc ça représente ce berceau, on va se rendre près du berceau. La maman ne va rester auprès de son enfant que quelques temps. Jusque ce qu'on appelle le retour des couches, hein, Et retour des couches, elle va aller à la messe très tôt le matin. Et on va lui enlever ses péchés qu'elle a eus, hein, de cette naissance. Et mais les bourgeoises pouvaient repartir dans les salons, pouvaient repartir dans la vie. Les paysannes, elles repartaient où ? Au champ. Donc elles vont repartir au champ. Cet enfant, ben, elles vont le laisser à la grand-mère, à la belle-mère. Il va être couché dans cette corbeille qui est en général la fabrication du père, en osier. Dessous, il y a une paillasse qui est en feuille de faillard. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire, ça se dit plus aujourd'hui, quand quelqu'un attendait un bébé, on disait « Tiens, on l'a vu, il est allé sous les faillards, ils doivent attendre un enfant.
» À suivre cette chronique touristique à la maison-musée de Rochechinard, une visite commentée par Alain Derbier.
C'était la maison-musée des Rochechinard qui nous a amenés à la fin de cette émission magazine touristique du mardi 25 juillet, enregistrée au musée de la Préhistoire de Vasseur-Ambercor. Nous remercions Didier Lalande, nous remercions Diane, animatrice. Nous vous remercions pour nous avoir écoutés. Nous remercions Jean-Claude pour la technique et nous vous rappelons encore nos partenaires qui ont permis la réalisation de cette émission. Donc merci au Musée de l'eau à Pont-à-Royan. Merci au Grand Séchoir Maison du Pays de la Noix à Vigny. Merci à la Maison Musée des Rochechinard, au Mémorial de la Résistance à Vasseur-en-Vercors, naturellement au Musée de la Préhistoire du Vercors, où nous sommes aujourd'hui, et au Musée de la Résistance à Vasseur, au Jardin des Fontaines Pétrifiantes à la Saône, à la Grotte des Thaïs, et les bateaux à roues à Saint-Nazaire-Royan, la grotte des Choranches, les festivals Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye, les festivals des Chapelles en Royan-Vercors, l'Office de tourisme Vercors-Drôme et Indians Valley à Beauregard-Barré. Merci à tous et toutes pour nous avoir écoutés. Demain, à 9h, vous allez retrouver Patrice pour les magazines touristiques et je vous souhaite une très belle journée à l'écoute des radios Royan-Vercors.
Radio Royan devient Radio Royan Vercors, à écouter sur 93 FM et sur internet www.radioroyan.fr.